c'est ici une des questions sur lesquelles je travaille, qui est une question extraordinairement risquée sur le plan intellectuel et sur le plan de la discussion de la recherche, et la question de savoir si toutes les sociétés, toutes les cultures, à un moment de leur histoire, bien entendu, peuvent être génocidaires. Si nous répondons oui, nous donnons à la violence une naturalité, une universalité, une constance qui traverse toutes les cultures. Si nous répondons non, ça veut dire que nous admettons que la violence peut être abordée du côté de l'historicité. Et qu'il y a des niveaux de violence socialement acceptables. Il y a un rapport à la parole qui est variable d'une société à l'autre. Alors quand je dis une société, je précise toujours à un moment donné de son histoire. Je cite toujours l'exemple qui est cité en anglais sur la violence, des sociétés qui à un moment ont été les plus violentes peuvent historiquement voir en elle décroître considérablement ce niveau de violence. Je cite toujours les victimes. Nos amis du Nord, qui ont été qui le peuple le plus craint de l'humanité, le seul mot des victimes faisait fuir la population. Aujourd'hui, à ce qu'on sache, le niveau de violence des pays d'Europe du Nord a évidemment considérablement décru. Ce qui montre une variabilité dans la violence. Donc je plaide, comme sociologue, comme anthropologue, pour qu'on ne prenne pas la question de la violence comme une espèce de donnée naturelle, attachée à l'humain, dont on ne pourrait pas se débarrasser, et que seul le jeu les forces du bien et du mal permettraient de régler un moment, mais je veux dire de façon extraordinairement optimiste que la violence est peut-être un phénomène culturel, et si c'est un phénomène culturel, nous devons la travailler, et comme l'a rappelé David, le meilleur outil pour travailler la question de la violence, c'est évidemment la parole.
Alors, qu'est-ce que
t'en penses ? Je suis totalement d'accord avec Philippe, évidemment, mais je reprends juste un mot, donc Philippe a dit un peu mieux que ce genre. Je pourrais ajouter, mais je vais reprendre un mot que tu as évoqué tout à l'heure, c'est celui de l'identification, parce que ça, je le rencontre en permanence dans mon travail, pour avoir écrit sur les défis haïtiens, par exemple, sur le racisme, sur bien d'autres sujets comme ça, plus récemment, dans mon livre sur les adolescents, sur la lycéenne, par exemple, et puis aujourd'hui, sur un peu les sérieux dealers, mais ce qui m'intéresse plutôt, ce sont les adolescents qui tuent dans les écoles. Ce qui permet le passage vers le meurtre, c'est justement l'impossibilité de s'identifier à l'autre. À partir du moment où on conçoit l'autre comme un écho à soi-même, ça devient difficile de porter la main sur lui. Et c'est ça aussi qui est présent dans le texte magnifique de Saint-Exupéry, c'est que soudain, ce milicien voit en cet homme un autre que lui, il voit un frère, entre guillemets. Bien sûr, je sais que tu as écrit toi sur la férocité. Charlotte nous a rappelé les violences les plus dures peuvent être à l'intérieur même de la famille. En tout cas, là, en l'occurrence, ce lycéen voit cet autre comme un prolongement de lui-même, d'une certaine manière. Et là, la mise à mort devient impossible. Et de la même façon, le racisme, l'exécution ne peut passer qu'à partir du moment où on voit l'autre radicalement comme un autre. Souvent, d'ailleurs, l'animalisation de celui qu'on a massacré, d'innombrables exemples historiques. Ou bien dans le happy sapping, c'est-à-dire le fait de filmer un viol, de filmer une violence exercée contre un sans-abri ou autre, c'est l'impossibilité radicale d'imaginer ce que l'autre peut ressentir dans le viol, la violence, le tabassage, etc. Et puis transformer en spectacle, en quelque sorte, spectacle merveilleux, le fait d'avoir traqué cette impossibilité de s'identifier à l'autre, on la retrouve d'ailleurs aussi dans le racisme, dans le handicap, le rejet des personnes handicapées. Comment pourrais-je être à mon tour cette femme ou cette femme dans un fauteuil ou privée d'appui ou privée. Donc on préfère mettre à l'écart et puis c'est cette désidentification justement qui crée la vitalité qu'on retrouve dans la défiguration aussi. Comment on est déjà dans la défiguration des personnes de ne plus s'identifier à elle, puisqu'elle a perdu le support même de son identité, qui est le visage. Dans une société contemporaine occidentale. Et pour moi, c'est une notion qui m'a toujours énormément intéressé. Elle traverse beaucoup de mes recherches. Elle se sent très différente, évidemment, de Philippe. C'est un autre niveau d'énergie.